BW. Vue d'Allemagne.
Olaf Scholz est maintenant sur TikTok. La nouvelle chaîne du chancelier allemand promet de montrer les coulisses de la vie d'un chef de gouvernement. Objectif, atteindre un public de plus en plus jeune. Quelle chance de succès pour cette stratégie? C'est ce qu'on va voir dans un instant. En deuxième partie, la sécheresse en Catalogne atteint un nouveau record. À Barcelone et ses environs, cela fait 3 ans qu'il ne pleut pas assez, avec des conséquences de plus en plus graves sur les activités d'agriculture et d'élevage. Ce sera le grand reportage de Vue d'Allemagne. C'est Anne Le Touzé au micro. Willkommen et bien bienvenue. Le bureau fédéral de presse a lancé sa chaîne TikTok il y a quelques minutes, annonce le porte-parole du gouvernement Stefan Hebestreit, lundi 8 avril au matin, devant les journalistes réunis à Berlin pour leur rendez-vous tri-hebdomadaire avec des représentants du gouvernement. Contrairement à ce qu'il avait laissé entendre lors de sa prise de fonction en 2021, on n'y verra pas le chancelier Olaf Scholz danser, mais la nouvelle chaîne promet de montrer les coulisses du travail gouvernemental. Sur ce fond musical, la première vidéo de la Team Bundeskanzler sur la plateforme sociale montre une paire de pieds qui avance sur un sol recouvert de moquettes. La caméra s'arrête un instant sur un porte-document posé sur un canapé. À travers la vitre, on aperçoit le Bundestag. On reconnaît alors le bureau du chancelier. Et justement, la caméra tourne rapidement pour montrer Olaf Scholz au travail. Fin de la vidéo, 13 secondes et plus de 1,2 million de vues 24 heures après sa publication. Alors, début prometteur ou simple effet de curiosité? Les trois vidéos suivantes n'ont en tout cas pas, du moins pas encore, eu le même succès. Mais être sur TikTok est une bonne idée, estime Martin Emmer. Il est professeur en sciences de la communication et du journalisme à l'Université libre de Berlin et travaille également pour l'Institut Weizenbaum de recherche sur la digitalisation de la participation politique.
Les médias sociaux sont un lieu central où les gens s'informent, surtout les jeunes qui le font de manière très intensive. Selon le rapport annuel de Weizenbaum que nous venons de publier, les jeunes générations, et pas seulement les adolescents, mais aussi les jeunes jusqu'à la trentaine, s'informent très fortement via les médias sociaux. Cela signifie qu'il faut y être présent. Bien sûr, il n'est pas nécessaire d'être sur toutes les plateformes, mais si l'on n'est pas du tout visible, on passe à côté de nombreuses possibilités de contact qui sont importantes pour la politique avec les électrices et les électeurs.
Le gouvernement a fait ses calculs avec un nombre d'utilisateurs de TikTok estimé à plus de 21 millions par mois en Allemagne. Il s'agit d'atteindre des jeunes qui délaissent les médias traditionnels, des jeunes que d'autres partis politiques réussissent déjà à atteindre avec des contenus favorisés par l'algorithme de la plateforme.
Il n'est pas nécessaire d'être abonné à un compte pour voir les contributions, ce qui distingue un peu TikTok des autres médias sociaux, comme Facebook par exemple. TikTok est une nouvelle forme de média social, moderne, qui permet d'atteindre très très rapidement une grande portée, du moins techniquement, et nous avons justement vu qu'il y a déjà quelques acteurs politiques. Ils sont peu nombreux, mais les médias ont montré très clairement qu'il s'agit surtout d'acteurs d'extrême droite, l'AFD par exemple, qui l'ont fortement exploité pour eux-mêmes.
Pour l'instant, c'est sur le porte-document du chancelier que l'équipe qui gère la chaîne Team Bundeskanzler semble miser pour assurer la viralité et rattraper son retard sur les extrêmes. Sur la troisième vidéo publiée sur la chaîne, on peut voir le porte-document se promener au fil des activités du chancelier sur fond de musique romantique. Une perspective originale qui peut avoir du succès, estime Anaya, 16 ans.
Je pense que justement en utilisant des réseaux sociaux très populaires chez les jeunes générations comme TikTok, on peut atteindre beaucoup d'adolescents parce que c'est un moyen de communication qui s'utilise au quotidien, même sans le vouloir ou sans particulièrement chercher à s'informer sur la politique. Ils tomberont sur ces vidéos et ils vont peut-être avoir 30 secondes de leur temps justement pour écouter un peu ce que le chancelier a à dire en faisant de temps en temps des vidéos, pas forcément sur la politique, mais sur des trends, justement sur TikTok. Je pense que ça pourrait amuser beaucoup d'adolescents et justement atteindre un public plus jeune qui ne s'intéresse pas forcément à la politique.
Pour Martin Emmer, la décision de lancer la chaîne du chancelier reflète une prise de conscience du gouvernement de l'urgence à investir le terrain déjà occupé par les extrêmes, surtout à l'approche d'échéances électorales importantes. En juin ont lieu les élections européennes auxquelles des jeunes de 16 ans pourront pour la première fois voter en Allemagne. Et à l'automne ont lieu trois élections régionales cruciales.
Il y a des élections dans trois Länder de l'Allemagne de l'Est, où ces partis d'extrême droite sont particulièrement forts. Cela a rendu le problème de la domination d'acteurs plutôt radicaux sur TikTok encore plus important, en particulier en Allemagne.
En arrivant à son tour sur TikTok, Olaf Scholz emboîte le pas au président américain Joe Biden et français Emmanuel Macron, qui ont également un compte sur cette plateforme, et ce, malgré les critiques envers la maison mère de TikTok, l'entreprise chinoise ByteDance, qui est accusée de ne pas prendre au sérieux la désinformation ni la protection des données. L'influence possible du gouvernement chinois sur les contenus est également régulièrement évoquée. Le gouvernement allemand a évidemment évalué les risques avant de se lancer. Selon le porte-parole du gouvernement, l'équipe qui gère les réseaux sociaux n'utilise pas les téléphones portables de service pour ses publications, mais d'autres appareils non connectés. Martin Emmer voit pour sa part une occasion d'obtenir davantage de régulation des plateformes sociales à une époque où elles sont devenues incontournables.
Cela peut être aussi une incitation pour le monde politique à se pencher un peu plus sérieusement sur la réglementation de ces plateformes, maintenant que les acteurs politiques se rendent compte qu'ils ont besoin de ces plateformes et qu'on ne peut pas se contenter de les rejeter et de les ignorer.
La quatrième vidéo de la chaîne TikTok du chancelier fait 21 secondes. On y voit Olaf Scholz assis sur un podium recevoir un coffret de deux vins et réagir avec un brin d'humour à la voix qui lui suggère de partager le vin avec son épouse en rentrant ce soir. Le message politique n'est pas encore limpide. L'équipe qui gère la chaîne semble pour l'instant miser plutôt sur la forme que sur le fond. Vue d'Allemagne, deuxième partie, et nous partons comme promis pour l'Espagne, ou plutôt pour la Catalogne. Barcelone et ses alentours sont frappés par une sécheresse historique. Cela fait 3 ans qu'il ne pleut pas, ou du moins pas assez. Les réservoirs d'eau sont au plus bas, si bien que les autorités ont dû déclarer l'état d'urgence le 1er février dernier. Depuis, plusieurs millions d'habitants sont soumis à des restrictions d'eau. Alors comment cette situation est-elle vécue? Quelles sont les mesures mises en place? Reportage à Barcelone et dans ses environs de notre correspondant Henri Delaguéry.
Assise sur un banc, Monica, 45 ans, surveille ses enfants. Ils jouent dans un parc qui a bien mauvaise mine, pas très loin de la plage de Barcelone. L'herbe a disparu, elle a laissé sa place à de la terre battue. Les arbres n'ont pas survécu à la sécheresse, ils ont été abattus.
Ça fait plus de 25 ans que j'habite ici et je n'avais jamais vu ça. D'habitude, dans ce parc, il y a de l'herbe partout. Là, tout est sec. Même les arbres tombent. C'est préoccupant.
Dans la capitale catalane, les effets de la sécheresse sont donc visibles. Les parcs et les jardins ne sont plus arrosés, les fontaines sont fermées. Et partout, on trouve ce panneau qui rappelle que la région est passée en état d'urgence. 6 des 8 millions de Catalans sont soumis à de sévères restrictions. Et ce ne sont pas les quelques pluies tombées lors du week-end de Pâques qui modifient la situation. Au nord de Barcelone, Tiana, une ville de 10 000 habitants, est au régime sec. Le maire, Isaac Salvatierra, fait appliquer les mesures à la lettre.
On est en situation d'urgence pour sécheresse. C'est une situation grave. C'est interdit d'arroser le jardin, remplir la piscine ou laver sa voiture. Ça, ce sont les interdictions. Mais ensuite, on a toute une série de recommandations, car on doit être le plus efficace possible. Quand tu prends ta douche, avant que l'eau ne devienne chaude, il ne faut pas laisser couler pour rien. Il faut mettre une bassine en dessous pour réutiliser cette eau.
Il y a une vraie prise de conscience des habitants qui acceptent de bonne volonté ou avec résignation les différentes mesures de restriction. Le mois dernier, Tiana a consommé l'équivalent de 202 litres d'eau par jour et par personne. C'est juste au-dessus de la limite fixée par les autorités.
On fait des inspections pour veiller au respect du décret sécheresse. Et dans le même temps, c'est agréable de voir comment certains habitants nous préviennent quand ils voient, par exemple, un voisin arroser son jardin toute la nuit.
En Catalogne, 25% de l'eau potable se perd en moyenne dans les canalisations. Un peu plus au nord, loin de la ville, dans l'arrière-pays catalan, Jaume Bosque est éleveur, il possède 300 vaches et il est censé réduire de moitié sa consommation en eau.
Ce sont des mesures très difficiles à mettre en place. On ne peut pas contrôler les animaux et leur demander d'arrêter de boire ou leur couper l'eau. On ne peut pas faire ça.
Mais il a tout de même envoyé une trentaine de vaches à l'abattoir afin de réduire sa consommation. L'agriculture est particulièrement touchée par les restrictions. Le tourisme un peu moins, regrette Ricard Huguet. C'est un producteur de fruits et légumes et lui doit réduire sa consommation en eau de 80%.
Les seuls qui souffrent et subissent la sécheresse depuis l'année dernière, ce sont les agriculteurs et les éleveurs. Pourquoi le tourisme n'est pratiquement pas touché par les restrictions liées à la sécheresse alors qu'au même moment, on est presque contraint d'arrêter notre activité ? On sait qu'il n'y a pas d'eau, mais les restrictions doivent concerner tout le monde et pas seulement un secteur.
La pluie ne tombe pas du ciel, alors les autorités font tout pour trouver de l'eau autrement. Les deux usines de dessalement d'eau de mer de la région travaillent au maximum de leur capacité. Et puis, le recyclage des eaux usées s'accélère aujourd'hui. Près de 60% de l'eau qui sort du robinet à Barcelone vient de l'eau de mer ou des stations d'épuration. Mais s'il ne pleut pas dans les prochaines semaines, Barcelone pourrait faire venir des bateaux remplis d'eau depuis Valence. Une solution ponctuelle qui ne résoudra pas grand-chose, reconnaît David Mascort, ministre régional de l'Environnement.
Si les bateaux doivent venir, ce sera vers le mois de juin. Mais un bateau ne peut transporter qu'entre 20 et 30 000 mètres cubes d'eau. Ça servira pour les équipements indispensables de la ville. Mais ce n'est pas la solution contre la sécheresse pour la Catalogne.
Les habitants et les différents secteurs de l'économie devront quant à eux redoubler d'efforts. Des coupures d'eau sont à craindre d'ici l'été. Barcelone, Henri de Laguerry pour la Deutsche Welle.
Et Vue d'Allemagne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Vous pouvez vous abonner au podcast sur toutes les applis de podcast et nous laisser des étoiles si les émissions vous plaisent. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss!